Par ailleurs, il y a une légèreté, curieusement, qui arrive avec l'âge. Je suis plus lourde que quand j'étais jeune, mais j'ai l'esprit beaucoup plus léger. Et pourtant, j'absorbe quotidiennement, comme tout le monde, mais je l'absorbe très violemment, les horreurs du monde, la douleur des autres, les souffrances sporadiques et puis la souffrance générale qui s'est installée dans le monde, dans un monde chaotique, donc qui devrait nous bousculer. Et en même temps, puisqu'on est privilégié, puisqu'on est favorisé, de pouvoir faire exercer l'art du cinéma, l'art de l'installation, et que je pense que c'est pas complètement inutile. Donc, je me dédouane comme ça en me disant ça, et j'essaye de tenir quand même une relative joie de vivre. C'est étrange de dire ça, mais je crois que c'est ça.
Ce soir, cinquième épisode de notre hommage à Agnès Varda, intitulé « Varda, l'irrévérencieuse ». Pendant 4 jours, nous sommes partis en voyage. Nous sommes partis dans un pays qui lui appartenait, un pays plein de fantaisie, d'inventivité, d'énergie et de gentillesse. Ce soir, ce sera le dernier épisode de ce voyage. On va terminer par la voix d'Agnès. Agnès qui, elle-même, va se raconter. Mais tout de suite, et comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec Clara Luciani Bovary.
Je ne sais pas si je suis encore vivante. Sinon, quelle est cette douleur qui me hante? Mon corps se balance au-dessus d'une mer immense, mais je m'accroche à vous. Il ne me reste plus que quelques souvenirs d'enfance qui déjà deviennent flous.
Monologue intérieur. Car je crois réellement que moi je suis plusieurs, il y a plusieurs femmes en moi. Alors quand je me pose une question, quand je monologue au fond dans ma tête, c'est comme si nous étions plusieurs à parler. Et j'ai quelquefois l'impression d'un dialogue, d'une conversation, enfin suivant si on est 2, 3 ou 5, où chacune de moi prend la parole pour essayer d'exprimer quelque chose. Et au fond, ça serait rigolo au cinéma de le faire parce que ça pourrait rendre compte d'une façon réaliste et vivante et drôle de ce qu'est un monologue intérieur.
Pourquoi ne raconterait-on pas l'histoire d'un être qui, dans un siècle où l'aptitude au bonheur est d'une part rare et d'autre part le conditionnement général pousse les gens à avoir conscience et surtout mauvaise conscience, et surtout on leur dit tout de même bonheur casse-cou, bonheur pas durable, communication pas possible, amour stupide, etc. Enfin, c'est vrai qu'il y a l'ensemble des événements de la publicité, de la littérature, qui conditionnent mal les gens à être heureux, à être simplement heureux.
Je ne peux plus. C'est affreux.
Mais qu'est-ce qu'elle a ?
Elle est fatiguée. Et puis vous savez, le mot cafard est maléfique. C'est comme le mot corde.
Un mot, ce n'est rien, encore que la rime. Mais c'est une belle chanson, je vous assure. Avec ce cri d'amour, vous allez révolutionner le monde de la chanson.
Vraiment ? Mais qu'est-ce que c'est qu'une chanson ? Combien de temps dure-t-elle ?
Caprice.
Caprice, caprice. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Mais c'est vous qui faites de moi une capricieuse. Tantôt je suis une idiote, une incapable, une poupée de son. Maintenant, je vais faire une révolution avec des mots macabres. Mais c'est ça, vos chansons de charme ? C'est avec ça que je vais faire un succès ? C'est réussi comme un enterrement avec beaucoup de monde. Vous vous servez de mes nerfs, vous m'exploitez. Allez-vous-en. Non, c'est moi qui pars. Quand je vais vous servir à boire, la séance est finie. Laissez toutes les chansons, je choisirai toute seule.
Mais tu sais pas le solfège.
Tu ne me l'as pas appris pour que j'ai besoin de toi. Tu ne m'as jamais fait confiance, tu crois que je n'ai pas de talent. José, lui m'a remarqué la première fois que je suis passée au Drador. Il a aimé ma voix tout de suite.
Ta voix? Laisse-moi rire.
Tu me détestes, on dirait.
Encore un truc pour qu'on te dise qu'on t'aime. Enfin, gâté.
Pose-toi. Tout le monde me gâte. Personne ne m'aime. Personne. Dans quel état elle se met? Je me mets en noir. Pour vos chansons, je serai dans la note. Un cri d'amour. Seule laide et livide. Voilà. Si je pouvais m'arracher la tête avec. Tu veux que je vienne?
Non.
Je veux être seule. Cléo, je vous rappelle que c'est mardi. C'est mardi, zut, je fais ce qui me plaît.
C'est vrai que, on en parlait ce matin, le monde est dans un état assez déplorable. Il se passe des trucs terribles. On pourrait dire que, d'une façon générale, le monde est en grand malheur en ce moment, avec toutes les possibilités de malheur et de catastrophe, plus des millions de migrants qui errent d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Et on n'a pas d'autre solution que d'essayer de tenir debout et de se dire on ne peut pas s'occuper de ce qui se passe partout. On ne peut surtout pas y remédier. Il y a des problèmes en Syrie. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? On peut écouter ce que disent les uns et les autres. Je veux dire que, d'une façon générale, on est très... incapable. On ne peut pas faire quelque chose. Sauf dans les cas où il faut voter, où il faut manifester, aller dans la rue. Mais on ne fait pas grand-chose pour que le monde aille mieux. C'est parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens de le faire. Alors je me dis, c'est un peu une échappatoire. Effectivement, moi je me planque, je me mets dans ma petite cabine, dans ma petite cabane faite en film, et je pense au cinéma. Et penser au cinéma, c'est pas mal non plus, parce que c'est quand même quelque chose qui se partage.
Véritablement, tu vois, j'ai parlé tout à l'heure des contrastes. Je sens parfaitement en chacun de nous, en moi particulièrement, le solaire et l'ombre. Le solaire, c'est d'être extraverti, d'avoir envie de faire des œuvres qui se partagent, enfin, puis je suis plutôt de bonne humeur, puis j'aime bien les autres, j'aime bien rire et tout ça. Et quand j'avais fait à Los Angeles Murmure, qui était un film sur les peintures murales, c'est-à-dire une ville qui s'exprimait de façon extravertie, j'avais ressenti le besoin immédiatement après de faire un film sur Los Angeles ombre, Los Angeles mauve, gris, triste, quand c'est le bout de la ruée vers l'ouest, quand les gens n'ont plus rien à attendre. Je sentais absolument les deux films, d'ailleurs ils sont sortis ensemble, comme la lumière et son ombre. Et c'est vrai que j'ai des fois envie d'exprimer cette ombre. J'aurais tendance à commencer peut-être des films ou des textes tristes, profondément marqués par, pas la douleur, mais ce qu'on ressent d'une mélancolie métaphysique qui existe dans chacun de nous. Et tout le temps, je m'oriente en me disant, non, on va quand même pas embêter les autres. Il faut quand même plutôt faire vivre ce qu'on a dans nous de solaire et de partageable. Je sais pas si c'est le respect des autres, quoi. L'idée que c'est plutôt plus intéressant d'aller vers ce qui se partage et qui aide à vivre, au fond. Parce qu'on veut tous s'aider, s'entraider, s'auto-aider. Bon, sauf si on a un tempérament, tu vois, auto-mélancolique en entretenant cette chose-là qui peut d'ailleurs susciter et faire naître des très belles œuvres, évidemment. Mais c'est sûr que il m'est assez naturel de repousser de toutes mes forces tout ce qui est mélancolique, tout ce qui est douleur. Moi, j'ai connu quelques grandes douleurs et au moment où on les vit avec une telle intensité. Puis après, c'est pas la douleur qu'il faut garder. C'est la vie de l'autre, le souvenir, faire le tri, quoi. Je trouve qu'on fait un tri qui est tout à fait positif en repoussant plutôt les mauvais souvenirs, en gardant les bons. Ça a l'air d'un truc comme ça, mais pourquoi pas? Pourquoi on devrait ruminer tout ce qui a fait mal et qui fait encore mal, alors qu'on peut éventuellement penser à autre chose? Mais enfin, on est toujours rattrapé quand même. On est rattrapé par les vacheries, on est rattrapé par des grandes douleurs qui sont lointaines ou moins lointaines. On est rattrapé par une souffrance parce qu'on la voit chez les autres, on la rencontre chez les autres. Et alors ça fait écho. On est soi-même écho des autres et ils sont écho de nos tréfonds. Et qu'effectivement, ça ferait une familiarité avec ce qu'on appellerait les autres. Mais j'essaie toujours de dire que si on peut partager quelque chose d'un peu plus souriant, et c'est pas pour faire des comédies, mais d'un peu plus souriant, d'un peu plus avenant, on finit par s'amuser un petit peu quand même. Et je crois que s'amuser dans la vie, c'est un choix moral, quoi.
En Californie, on peut venir voir des amis et fumer des herbes très raffinées. À Los Angeles, on peut venir voir des anges marcher sur les eaux du Pacifique. En fait, ce sont des blonds sur des planches. On peut visiter les studios majeurs d'Hollywood et voir pour de vrai les stars de cinéma. Moi, à Los Angeles, j'ai surtout vu des murs. Tout d'abord des graffitis, beaux comme des peintures, signés par des dizaines d'anonymes sur des murs longs comme des serpents mythiques. C'était le début d'une découverte pleine de plaisir et de surprise, celle des murs peints. On dit murals en américain. Je les appelle murales. Murales comme mur vivant, mur vital, mur moral. Mural comme mur parlant, mur murmurant. Mural comme un mur râle, l'autre parle. Mais mural comme non commercial. Ces murs-là n'ont rien à vendre.
À la façon de faire, vous regardez comme la peur de la mort, mais non, moi je suis toute vieille aussi. Et effectivement, je suis quand même vers cette chose qui, la seule chose qui peut m'arriver vraiment importante maintenant, c'est de mourir. Sauf si je me casse une jambe avant. Mais je pense que il y a une chance qui m'est donnée d'être dans le quotidien avec une certaine légèreté, malgré toutes les pensées que j'ai qui ne sont pas toujours légères, ni les sujets que je traite, ni la vie qui se présente autour de moi. Mais voilà, je dois dire bêtement, mais je profite de chaque instant. De passer aussi outre une mélancolie qui s'abat sur tout le monde et sur moi par moments. Ah oui, je suis mélancolique, mais exactement comme ces journées, vous savez, où le ciel, tout d'un coup, il y a un énorme nuage qui passe, qui obscurcit tout pendant 5 minutes. Et puis, on sait qu'il bouge. Et puis, il bouge et ça remet la lumière. Il y a ça au début de Saint-Antoine-Ingoula, c'est un très beau plan sur un paysage. Et on n'a pas coupé, justement. Vous savez, ceux qui disent « Faustin, on arrête !» On a continué et on voit le paysage s'obscurcir comme ça. Et puis retrouver sa lumière. Et je pense que le sens du temps, le sens de la journée, le sens de chaque jour, le fait, si on se réveille un jour de plus, on n'est pas encore mort. Disons que le jour où on ne se réveille pas, on est mort. J'ai de la chance, je suis bien entourée aussi. J'ai des enfants qui sont épatants, qui sont eux-mêmes un peu artistes. Mathieu Demy, Rosalie a fait longtemps des costumes, maintenant elle nous aide beaucoup à la production. Ils sont généreux, ils sont charmants, j'ai des petits-enfants. J'ai une équipe qui travaille avec moi qui est gentille. Des techniciens, la plupart du temps, ils ont l'âge d'être mes enfants, pour ne pas dire mes petits-enfants. Ils n'ont pas l'air trouvé anormal de travailler avec moi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses amusantes dans une journée. Amusantes, tout en observant ce que ne l'est pas. Mais ma curiosité, mon goût de voir un peu ce qui peut être marqué comme amusant ou humoristique, existe en chaque instant. Et c'est marrant parce que quand vous m'avez invité, vous avez dit il faut apporter éventuellement des disques que vous voulez entendre. Et entre autres, j'avais choisi Il pleut sur Nantes, une très belle chanson triste. De même, les chansons tristes que j'adore, comme Les feuilles mortes. Où, au fond, j'aime énormément pleurer au cinéma, les chansons tristes. Et que peut-être la capacité d'exprimer l'envie de pleurer se serve de ce que les autres ont fait ou des peintures. Moi, je peux pleurer devant une peinture. Certaines peintures comme ça de Van der Weyden ou de cette époque où il y a, vous voyez, les femmes accrochées comme ça au bas de la croix où il y a le Christ. Je suis pas croyante, je suis pas catholique. Mais... je m'en fiche un peu. Mais la représentation de la douleur, comme elle a été peinte comme ça, moi, ça m'arrache les larmes. Ben oui, la représentation de ce qui peut nous émouvoir au point de physiquement nous affecter. Vous savez, j'ai fait une petite série qui a passé à la télé qui s'appelle De ci, de là. Et qui est dans le livre aussi. Et où j'ai comme ça vu que des gens dans la rue ou des grands artistes, c'est tout pareil. Ils peuvent vous arracher l'émotion d'un moment où vous n'y pensez pas. Ils peuvent aussi vous mettre de bonne humeur. Je raconte l'histoire, par exemple, j'étais dans un petit marché mexicain. Je sais que c'est tard, mais je veux raconter ça. Il y avait à l'entrée du marché, à 7h du matin, une dame, surmaquillée, une vieille dame, avec un rouleau de bigoudi qu'elle avait gardé et une robe du soir. Elle balayait l'entrée du marché pour que ce soit propre pour les gens qui viennent. Moi, je suis émue complètement par une personne comme ça, qui tient tellement à être belle, à être en forme, à accueillir les gens avec au mieux de sa beauté. Et ça me touche autant qu'un beau film. Aucune œuvre d'art. Alors, c'est cette capacité peut-être d'aimer ce que proposent les autres et d'accepter les limites de mon talent, de mon intelligence. Malgré ce que tout ce que vous dites, j'en souffre énormément. Je voudrais faire mieux. Je voudrais faire encore plus sensible, un peu plus rigolo, un peu plus cohérent, incohérent, le mélange de tout ce que j'essaye de faire. Et puis pas dire que je m'applique, mais je fais au mieux ce coffret-là qui a été coédité, là, maintenant. Vous savez, on a trouvé une formule très drôle pour le vendre. C'est 1m48, 60 kilos, 1,8 kg de création. Parce que c'est un cube. Il y a 1,8 kg, c'est tout mon travail. Vous savez, j'ai fait un collage avec des dessins de Chris Marker, des dessins de Monsieur Chat, et j'ai mis des citations de Chris. Alors, une citation de Chris Marker. J'aurais passé ma vie à m'interroger sur la fonction du souvenir, qui n'est pas le contraire de l'oubli, plutôt son envers. On ne se souvient pas, on réécrit la mémoire comme on réécrit l'histoire. Comment se souvenir de soi ? Comment se souvenir de soi ? Comment se souvenir des autres et de ce qu'on n'a pas connu ? De réécrire le souvenir par la mémoire, par intuition. Eh bien, cette intuition dont on a tous besoin et qui me mène souvent... répond à certaines de vos questions. Pourquoi on fait ça? Pourquoi c'est court? Pourquoi c'est long? J'ai rencontré un monsieur dans l'Ardien l'autre jour qui a dit une chose très jolie. Il a dit, les plages d'Agnès, parce que c'était passé à la télé. m'a abordé dans la rue. Il m'a dit, oh, vous savez, j'ai aimé votre film parce que ça va très vite, mais il y a beaucoup de douceur.
Il a plu sur Nantes, donne-moi la main, le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Un matin comme celui-là, il y a juste un an déjà, la ville avait ce teint blafard lorsque je sortis de la gare. Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venue. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Faites vite, il y a peu d'espoir, il a demandé à vous voir. À l'heure de sa dernière heure, après bien des années d'errance, il me revenait en plein cœur, son cri déchirait le silence. Depuis qu'il s'en était allé, longtemps je l'avais espéré, ce vagabond se disparut, voilà qu'il m'était revenu. 25 rue de la Grange au Loup, je m'en souviens du rendez-vous, et j'ai gravé dans ma mémoire cette chambre au fond d'un couloir. Assis près d'une cheminée, j'ai vu quatre hommes se lever. La lumière était froide et blanche, ils portaient l'habit du dimanche. Je n'ai pas posé de questions à ces étranges compagnons. J'ai rien dit, mais à leur regard, j'ai compris qu'il était trop tard. Pourtant, j'étais au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Mais il ne m'a jamais revu, il avait déjà disparu. Voilà, tu la connais l'histoire, il était revenu un soir, et ce fut son dernier voyage, et ce fut son dernier rivage. Il voulait, avant de mourir, se réchauffer à mon sourire, mais il mourut à la nuit même, sans un adieu, sans un je t'aime. Au chemin qui longe la mer, couché dans le jardin de pierre, je veux que tranquille il repose. Je l'ai couché dessous les roses, mon père, mon père. Il pleut sur Nantes et je me souviens.
Vous avez déjà aimé?
Oui, comme ça, comme vous dites. J'ai toujours eu peur de me faire avoir. Et maintenant, à quoi cela me sert-il? Je me suis gardée pour...
Eh bien, nous dramatisons, il me semble.
Je suis vraiment triste. Et puis tout ça, moi.
Eh bien, voilà, on est deux dans une bulle. Ça va mieux? Oh, vous avez une jolie bague.
C'est une perle et un crapaud.
Vous et moi. C'est à quelle heure votre résultat?
Le docteur doit aller voir à l'hôpital, je dois l'appeler ce soir.
Pourquoi attendre? Vous ne pouvez pas aller à l'hôpital?
Je sais pas à quelle heure il y sera, et puis j'ai peur qu'il me le dise en face.
Venez, on va y aller tous les deux. Où est-ce?
À la Salpêtrière.
Très bien, ce n'est pas loin de la gare de Lyon. Comme ça, vous m'accompagnez après, si vous voulez.
On prend un taxi?
L'autobus est plus gai.
Ce que vous fûtes, vierges ou putes, mater dolorosa ou Marie, couche-toi là. Quoi qu'on ait dit, souvent médit, on vous vénère ou vous culbute. Je vous salue les maris.
Mais c'est drôle que tu dises, c'est exactement ce que j'ai pensé tout ces temps-ci. Je me disais, c'est rigolo parce que je suis vraiment seule. C'est pas que j'ai pas d'amis, j'ai pas d'enfants, mais je suis seule. Bon, depuis que Jacques est pas là, je suis seule. Et la solitude, par moments, c'est dur à vivre. C'est pas inintéressant, mais c'est dur. Et je me dis, en même temps, je suis tout le temps obligée de me dire, je sais qu'il y a des gens qui m'aiment, des spectateurs qui m'aiment. Je reçois sans arrêt des petits témoignages, des petites lettres, la pomme de terre, des chansons, des disques. C'est-à-dire, je suis complètement entourée d'amour, mais c'est comme une muraille. Tu vois, c'est-à-dire que ça m'entoure, mais je suis au milieu quand même. Je ne sais pas, je trouve que c'est difficile, c'est intéressant. Mais évidemment, c'est lié aussi au fait que quand on a un projet, quand on est deux, qu'on a le projet de vieillir ensemble, qui est un projet intéressant, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire. Quand on s'éloigne un peu d'une vie trop active ou tout ça, et puis que ces projets se vident un petit peu de sens, même si, par exemple, Jacques et moi, on adorait aller dans les musées, on aimait vraiment ça. On est allé plusieurs fois, même quand il était très malade, on est allé plusieurs fois à Amsterdam et comme ça. Bon, mais j'ai accepté d'aller au musée, j'ai accepté d'aller au Festival d'Amsterdam, parce qu'une fois de plus, je vais aller voir les musées. C'était quand même plus agréable d'y aller à deux, quoi. Je peux pas dire, c'est pas, ça change pas la beauté de la peinture, l'émotion qu'on peut avoir, mais ça m'arrive très souvent quand je vais dans des musées que j'aime aller. Je choisis d'ailleurs les festivals plutôt dans les villes où il y a des grands musées comme Vienne, Amsterdam ou même Lyon parce qu'il y avait la Biennale ou des choses comme ça, parce que je reste extrêmement curieuse et heureuse de voir ça. Mais ce qui est dur dans la solitude, je pense que c'est le manque de commentaires à deux. Une des joies d'être à deux, de vivre à deux, c'est que si on n'a pas passé la journée ensemble, ou même si on a été voir un film ensemble, on en parle ensuite. Et en parlant avec l'autre, on affine ce qu'on sent, on affine ce qu'on pense. Et donc seul, on autoradote, donc on pense moins. Ben oui, c'est ce que j'ai dit. Quand on est comme un imbécile chez soi tout seul, vaut mieux aller dans la rue, s'approcher des autres. Je crois que c'est presque une sorte de bon sens, c'est un... C'est presque, sauf qui peut la vie, et c'est la vie des autres. Mmh. Et j'ai tant reçu de ces autres que j'ai filmé, du plaisir de filmer des équipes avec qui sont tous des gens qui ont 30 ans ou 35 ans, qui sont rigolos, qui se disent pas du tout des fois que je suis fatiguée. On cavale dans les champs, on monte des collines. Je me dis, oh là là, j'ai mal aux jambes, ils s'en rendent peut-être pas du tout compte. Mais c'est plutôt gai de penser qu'ils ne me ménagent pas, et que Tante Agnès suit leur rythme, mais plutôt qu'eux suivent celui de Tante Agnès. Et je veux dire, j'ai de la chance et j'ai monté avec un jeune monteur qui était formidable, qui était Laurent Pinault, qui se passionnait, qui était complètement déboussolé parce que je change d'avis tout le temps. Parce que, non, c'est intéressant, c'est pas facile, c'est intéressant parce que je fais un montage rigolo et puis tout d'un coup j'ai une idée intuitive formidable. Je dis, oh, on va tout changer, on va faire comme ça.
M'approchais de mes 80 ans, 80 piges, 80 berges, 80 balais. Et je m'entourais de techniciens et d'amis beaucoup plus jeunes que moi. Ça, c'est un hommage à Sempé.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end.
Quand j'avais de l'herbe, elle était sympa. Quand ça a manqué, c'était déjà moins bien. Quand on m'a assommé, il n'y avait plus personne. Encore heureux qu'elle ait pas piqué mon transistor. Elle louchait dessus. Moi qui la prenais pour une casanière, ou qui s'accroche.
La réalité m'importait peu et je ne savais rien de rien sur la vie. Je ne posais pas de questions. Je savais que les femmes accouchaient, mais maman ne m'avait pas dit que les filles avaient des règles, ni ce que faisaient les hommes et les femmes quand ils étaient nus et ensemble. Non, on change les rapports avec les gens. J'ai d'ailleurs même peur de lasser tout le monde maintenant, parce que je suis un peu... Je crois que parce que j'ai beaucoup vieilli et que je sens arriver la fin, je vais de plus en plus vite. Alors, c'est peut-être pas une bonne idée, mais je produis tout le temps. Alors, je me dis, comme il y a toujours des gens pour faire de la promotion, pour parler de moi ou bien pour m'inviter, je me dis, ils doivent en avoir un petit peu assez, parce que en 2012, j'ai fait 2 expositions en Chine, qui étaient extraordinaires pour moi. Bon, alors après, dans la même année... J'ai exposé à Nantes, dans cette chose très formidable que Jean Blaise et David Moinard ont lancé. Vous savez, le voyage à Nantes et Estuaire. Ce sont des grands rendez-vous d'art contemporain, avec des surprises, des choses formidables. Mais je ne sais pas si on me prend, on m'a invité à Séville, dans un très beau musée qui était un ancien couvent. Et chaque fois, j'expose des choses, il y a des gens qui ont l'air contents. Encore mieux, avant, la première fois qu'on m'a invité à la Biennale de Venise, en 2003, j'y croyais même pas. Parce que j'osais pas m'intituler artiste, j'osais pas aller dans la cour des grands, parce que je fréquentais beaucoup les musées, j'aimais l'art, et les livres qui sont extraordinaires maintenant, les livres d'art, moi qui n'ai connu que des livres en noir et blanc, les livres sur Van Gogh étaient en noir et blanc. Alors maintenant, je me régale avec ces publications où on peut revoir, réapprécier un détail et tout ça. Donc je suis là-dedans jusqu'au cou. Et puis, on m'invite. Vous pensez que c'est comme si on avait ouvert une porte que j'attendais. Vous savez, ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant. C'était ça. Je pense que la vieillesse génère de la liberté. C'est comme si on n'avait pas à prouver qu'on existe comme cinéaste. C'est pas que je l'ai prouvé, mais enfin, j'ai fait 3-4 films qu'on peut retenir. Donc,
oui, enfin,
je suis pas.
Sévère.
Oui, mais je suis pas obligée de me battre pour dire j'ai fait quelque chose d'intéressant, etc. Donc, par ailleurs, il y a une légèreté, curieusement, qui arrive avec l'âge et qui peut s'accompagner du poids d'ailleurs. Moi, je suis plus lourde que quand j'étais jeune, mais j'ai l'esprit beaucoup plus léger. Et pourtant, j'absorbe quotidiennement, comme tout le monde, mais je l'absorbe très violemment, les horreurs du monde, la douleur des autres, les souffrances sporadiques et puis la souffrance générale qui s'est installée dans le monde, dans un monde chaotique, donc qui devrait nous bousculer. Et en même temps, puisqu'on est privilégié, puisqu'on est favorisé, de pouvoir faire exercer l'art du cinéma, l'art de l'installation, et que je pense que c'est pas complètement inutile. Donc, je me dédouane comme ça en me disant ça, et j'essaye de tenir quand même une relative joie de vivre. C'est étrange de dire ça, mais je crois que c'est ça. Oui, je suis présente dans ce que je fais. Je suis une cinéaste pas planquée, c'est ça surtout. Alors que ce fût par la présence, la voix, le commentaire, ou quelquefois j'apparais, mais j'ai vraiment l'impression que je filme les autres. Et cette série de ci, de là, c'est d'un artiste à l'autre, d'une ville à l'autre, avec un désir, non pas de faire partager un parcours touristique, un truc comme ça, mais plutôt comment, si on choisit l'art contemporain, on le trouve, et comment l'art contemporain a tant de facettes qui ne sont pas seulement les chefs-d'œuvre. Alors, il y a quelques chefs-d'œuvre des artistes tellement connus comme Boltanski ou Barceló, ou bon, évidemment, ou Soulages. Voilà, des maîtres, comme on dit. Mais aussi d'autres artistes qui font le travail d'artiste, c'est-à-dire de trouver des formes, de trouver des façons de d'écrire sans décrire, des couleurs, des façons de récit, une façon de s'intégrer ou pas dans la société. Et moi, ça m'a plu beaucoup de les mettre tous au même niveau, si j'ose dire, que ne fassent pas ni c'est une catégorie particulière, ni ce sont les meilleurs, ou tu sais, les 10 premiers, toutes ces histoires de listes qui m'énervent intensément. Le box-office, en quelque sorte, de l'art, ça n'existe pas pour moi. Il n'y a pas de petits ou de grands artistes. Il y a ceux qui sont plus connus, ceux qui gagnent plus d'argent, certes. Mais ceux qui sont vraiment artistes, ils expriment tous leur rapport au monde, leur rapport avec la société qu'ils connaissent, et leur désir de faire quelque chose qui est beau. Et cette idée du beau qui n'est pas du tout à la mode, en fait. Mais ce désir de beauté, il existe. Alors, la beauté a toutes les formes qu'on peut imaginer. Tu sais, comme dans Shakespeare, l'horrible est beau aussi.
Je me sens bien dans le ventre de cette baleine. À l'abri de tout, à l'abri du monde, à l'abri du vent de la côte, dans mon abricotier. Je crée aujourd'hui des images qui m'ont habité depuis longtemps, depuis que j'ai suivi les cours de bachelor à la Sorbonne. Je ne comprenais pas toujours ce qu'il disait, mais quand il commentait la baleine qui avait avalé Jonas, ou Jonas dans le ventre de la baleine et qui ne voulait pas sortir, je me sentais concernée, heureuse, comme aujourd'hui.
C'était l'âge des questions, ne pas savoir vraiment ce qu'on veut, savoir ce qu'on ne veut pas. Et là, c'était presque une rigolade, parce que je me suis dit, j'ai 79 ans, ça va être bientôt 80, 8-0, c'est un sacré chiffre, il faudrait que je fasse quelque chose. Donc, c'est pas vraiment une émotion, non. C'est une impression très forte que c'était un cap à passer. Il est passé, j'ai 80 et 6 mois. Et un film qui est fait, qui est fini, comme j'ai réussi à finir. Mais tout le monde peut faire un film sur moi. J'ai même été contactée très gentiment par des réalisateurs pour l'émission qui s'appelle Empreinte, qui est portrait de quelqu'un en 50 minutes. Oui, qui est bien, il y a souvent des choses très bien. Non, je me suis... Alors, si vous parlez de ça, je me suis dit, s'il faut que je commence à déballer, sortir des photos, chercher des souvenirs, gratter un peu pour raconter, oh ben, autant le faire moi-même. C'était un peu ça. Non pas que je fais mieux, je crois pas que je fais mieux, je fais pas pareil, c'est tout. Je peux raconter plus facilement comment j'ai ressenti que ma vie a accroché des événements, des grands mouvements de la deuxième moitié du XXe siècle. Je suis une petite personne qui a passé comme une petite souris, qui a croisé tout ça. Et je pense que ça sonne pour les gens comme des repères. Il y a des gens qui aiment mes films et qui ne me connaissent pas personnellement. Mais il y a évidemment des enfants et des petits-enfants. Et qu'est-ce que vous avez souvent demandé à vos parents, comment ils ont vécu leur jeunesse? Parce que, est-ce que vous avez beaucoup demandé à vos parents, vous? Oui, vous aussi? Pas assez. Alors, moi, j'ai tout le temps entendu ça. Et même de ma mère, bon, mon père, je n'ai pas bien connu, je ne connais rien de lui. Et de ma mère, elle m'a parlé, mais pas assez. Et je me suis un petit peu dit ça. Non pas que l'un ou l'autre ait plus d'importance, mais est-ce que mes petits-enfants, par exemple, ils ont été épatés que j'ai fait une fugue? Évidemment, des gamins de 16-17 ans, ils disent, oh là là, elle s'est tirée toute seule à 19 ans, ou comme ça. Bon, même mon fils Mathieu m'a dit, je ne savais pas que tu avais fait une fugue. Je dis, bah, tu ne m'as pas demandé. Et au fond, c'est comme si on imposait un petit peu aux proches et à la famille d'en savoir un peu plus. Jacques Demy a tellement valorisé son enfance que toutes les valeurs y étaient, donc il est retourné par ses personnages. Je ne sais pas si c'est très... Enfin, il y avait même Lola, elle part à Los Angeles, elle a envie que de rentrer à Nantes, quoi. Ah non, mais j'ai pas ça, j'ai pas de nostalgie. Oui. J'ai des yeux tenaces et j'ai des yeux heureux. J'ai des yeux qui aiment trouver la surprise. Je suis pas fouineuse, c'est pas ça, mais j'ai l'œil qui a envie de trouver des surprises et qui a envie de s'amuser. L'observation, si vous voulez, qu'on peut faire en regardant, elle amène souvent à des réflexions pleines d'humour et de drôlerie. Et quand on regarde les gens, c'est des fois, évidemment que c'est des fois atroce et pathétique aussi, mais souvent c'est rigolo d'observer. Vous savez, créer, c'est trouver un... pas un sens, mais trouver une manière de mettre ensemble les choses qui nous arrivent de tous les côtés. Et je ne veux pas dire que ce qui nous arrive est toujours rigolo, et même c'est plutôt pas rigolo. Si on voit la situation mondiale aussi, on voit même les choses autour de soi, ou les gens qu'on connaît, les maladies, les morts, tout ce qu'on peut dire. Il faut bien survivre dans une relative énergie de vivre. Et moi, l'énergie de vivre, je la trouve en faisant du cinéma. Bon, c'est fatigant, hein, de tourner, qu'est-ce que vous croyez? C'est fatigant. On est debout quand même 14 heures. Alors, ils sont tous très jeunes autour de moi. J'ai des équipes très jeunes. Alors, ça ne leur vient pas tout à fait à l'idée, des fois, de me donner un fauteuil, vous voyez, parce qu'on court tous. Et ils sont formidables avec moi, parce qu'ils me traitent comme une travailleuse. Mmh. Et ils m'aiment, en plus. Et moi, je les aime beaucoup travailler, ces équipes. Mais enfin, ils sont tous mes fils, pour ne pas dire mes petits-fils, la plupart du temps. Mes enfants, oui, ils me ménagent. Mes enfants, ils sont très gentils. Ils ne veulent pas que je me fatigue. Fais attention à toi, tout ça. Surtout ma fille, qui est très protectrice. Mais je crois que il y a un côté comme ça, et il faut marcher, il ne faut pas s'arrêter. Un petit côté, comme dans Saint-Antoine-Illois, quoi, pas forcément jusqu'au drame de mourir de froid. Mais Cléo aussi, elle marche, si vous voulez, dans toute attente de quelque chose, il y a l'idée d'une femme qui marche.
Non, ce n'est pas ô rage, non, ce n'est pas ô désespoir, ce n'est pas ô vieillesse ennemie. Ce serait peut-être même vieillesse amie, mais tout de même, il y a mes cheveux et mes mains qui me disent que c'est bientôt la fin.
Ce que j'aimerais, c'est que Polo rêvasse avec moi, comme les amoureux de la galerie, enlacés.
Le vieux part avec une valise. On va être peinard 3-4 jours.
Il est pas mal, ton petit squat.
La maison, pour moi, c'est pas... Ça n'a pas beaucoup de signification. C'est bon, il faut un endroit. On a besoin d'un endroit pour se retrouver, ça c'est certain. Mais la maison, pour moi, ne représente rien. Pour Agnès, qui a besoin de ses colliers, qui a besoin de ses livres, qui garde tout. Agnès est une femme qui collectionne. C'est une race, les collectionneurs. Des livres, des magazines, des cartes postales, elle les garde. Moi, je jette. Vous voyez, là, il y a un contraste évident. Je n'aime pas les photos, je n'aime pas les souvenirs, je n'aime pas le passé, je n'ai pas de nostalgie des choses. Je ne dis pas qu'Agnès est ça, mais elle a un côté collectionnaire ou collectionneuse qui fait qu'elle garde la moindre carte postale et quelquefois des timbres aussi. Et puis tout ce qui se présente, une revue, moi je jette. Beaucoup de femmes sont très attachées à leur maison. C'est un sentiment de protection, c'est une coquille. Et ça correspond certainement à un besoin. On protège l'enfant comme ça. Peut-être, je ne sais pas, c'est une question que je me pose. Mais moi, que je sois, dès l'instant que je suis avec elle, les enfants, que je sois ici ou ailleurs, quelle importance. Agnès ne veut pas quitter Paris. Elle aime, je crois. D'ailleurs, ce n'est pas Paris, c'est la rue Daguerre. Elle aime tellement qu'elle fait partie maintenant du pavé et du sous-sol et des catacombes.
Et tu vois ce petit carré que je vois d'ici de ma fenêtre? On voit ça dans le film d'ailleurs. Je me tourne comme ça, et tu as vu que j'ai fait apparaître Jack sur le mur du fond. Tu te rappelles pas la fin du film? Je suis là assise, comme ça j'écris, et je me retourne, et puis on a fait un truc comme ça, et le visage de Jack souriant apparaît sur le mur du fond, et puis il redisparaît deux minutes. C'est pas pour faire fantôme, mais c'était pour marquer un peu plus que c'est là qu'on a vécu, quoi. Je vais pas changer de place. C'est très particulier. Et c'est bien de savoir que les choses que Jacques a vues ici, il y en a beaucoup qui sont restées là. Je ferais bien de vider un peu parce que plus qu'on vieillit, pour redire le vieillir, plus on entasse, ça devient dur.
Et tu sais à peu près où?
Oui, tu as vu cette dame-là, cette femme à poil en maillot de bain avec une couronne. Eh bien, c'est une sainte que j'ai ramenée du Brésil, qui est vendue dans les marchés. Et on lui offre du champagne, on lui offre des fleurs pour se protéger et avoir des belles amours. Elle est quand même un peu dénudée, non, pour une sainte. Alors, etc. Des choses rigolotes qu'on ramène des pays. Et puis au Mexique, je me suis... Tu as déjà été Tu as été au musée d'art populaire avec tous ces extraordinaires masques, squelettes de tête, des trains qui sont conduits par des squelettes qui dansent, qui boivent dans les cafés, des têtes de mort en sucre. Ah oui, ben ils ont une célébration... très forte de la mort. J'en ai peut-être déjà parlé de ça, mais comme je reviens du Mexique, je suis très, très impressionnée par ça. J'avais déjà été une fois au moment de la fête des morts. C'est très, très bien ce rapport qu'ils ont avec la mort. Ils sont peut-être comme les autres, embêtés, malades, peur de la mort, mais ils rigolent de ça. Ils rigolent de comment on est quand on est après, quoi. Les squelettes, les têtes de mort, ça, il y en a partout. Ben, je crois qu'on la conjure un peu quand même en rigolant, quoi. Enfin, on est obligé d'y penser de diverses façons. Mais je crois que de toutes les représentations un peu amusantes ou imaginatives de ce qui nous fait peur, ou de ce qui peut nous faire peur, détourne un peu le sujet. Mmh. Et met la créativité devant la décomposition, si j'ose dire. Moi, je le ressens beaucoup. Je ressens beaucoup la bonne humeur du vieillissement, parce que je le ressens beaucoup, mais aussi les petites difficultés techniques, le fait qu'on s'abîme, le fait qu'on se fatigue, des trucs comme ça. Fermons la parenthèse.
Cops in cars, the topless bars, never saw a woman. scène.
Encore une fois, avec The Doors, elle est Woman, qui a été donnée, y compris le jour et l'après-midi radieuse de l'enterrement d'Agnès Varda au cimetière du Montparnasse, que nous allons nous quitter ce soir, non sans avoir remercié Anne-Sophie Dazard, Jean-Baptiste Audibert, Élodie Royer pour toutes ses recherches dans les archives INA, et Lilian Allôme qui a réalisé magnifiquement toutes ses émissions. Merci aussi aux éditions Arte pour le coffret des documentaires d'Agnès Varda et pour tous les autres films qui ont été restaurés grâce à Arte. Et dans le jardin de la Fondation Cartier à Paris, vous trouverez, pas très loin de chez Agnès Varda, installée depuis 2016, la cabane d'Agnès en hommage à un de ses chats, et à partir du 12 juillet et jusqu'au 10 novembre, une sculpture d'Agnès Varda. La dernière, c'est un tronc d'arbre sur lequel elle a disposé une sculpture de son chat Nini en bronze. Agnès ne nous quitte pas. Et après le prochain journal d'information, eh bien vous retrouverez, comme chaque vendredi soir, Didier Varro pour sa dernière foule sentimentale.